écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du 25 février 2013, dernier du mois pour l'équipe du lundi, avec Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex pour aborder l'actualité internationale, européenne aujourd'hui aussi, nationale. Tout d'abord, actualité internationale, Robert, tu m'entends? As-tu un sujet de prédilection pour ouvrir ce journal?
Pour l'ouvrir, peut-être quelque chose de très 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 dur et qui est porteur sans doute dans les prochains jours de choses importantes, c'est ce qui se passe en Cisjordanie, où depuis plusieurs jours des manifestations ont lieu, tout simplement, si on peut dire, à la suite du décès d'un jeune Palestinien dans les prisons israéliennes. Et les Palestiniens estiment que ce décès est dû à la torture, d'où des manifestations en Cisjordanie, d'où aussi une grève des prisonniers. Il faut rappeler qu'il y a près de 5000 prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes, et donc ils ont déclenché une grève de la faim. Pour protester contre les conditions de détention et notamment les cas de soumission à la torture. Alors, les Israéliens sont très gênés parce qu'ils n'avaient pas besoin de ça en ce moment, et où ils essayent de se constituer un gouvernement. Et à un moment où John Kerry, le nouveau ministre des Affaires étrangères, on va appeler ça comme ça, américain, va être dans la région. Mais néanmoins, de toute façon, sur le fond, ils ne changent rien, ne font aucune avancée, et la situation est toujours bloquée. Le seul point que les Israéliens avancent en permanence, c'est toujours c'est la menace iranienne et c'est le développement de la colonisation, et point final.
Donc cette action survenant après, on l'a dit, l'arrestation d'un jeune gars de 30 ans qui, au bout de 4 jours d'arrestation, est mort, paraît-il, d'une crise cardiaque. Qui va croire ça? De toute évidence, il est mort sous les tortures. Et il y avait déjà, donc il y a eu aujourd'hui 3000 détenus qui ont fait la grève de la faim en guise de protestation, sachant qu'il y avait déjà 11 détenus palestiniens qui poursuivaient une grève de la faim. Entre autres, pour protester contre différentes choses, et entre autres contre le fait que les Israéliens ont bien libéré des prisonniers en échange du soldat Shalit. Mais depuis, ils sont retournés les chercher et ils les ont refoutus en tôle, quoi. Drôle de méthode, quand même. Et face à tout ça, on a Netanyahou qui somme Mahmoud Abbas de rétablir le calme. Ça lui va bien, lui, de demander des choses pareilles, quoi. Voilà, autre sujet, peut-être.
Peut-être on peut rester dans les pays arabes. Tunisie, où visiblement la crise politique institutionnelle n'a pas beaucoup avancé, même certains considèrent qu'elle va s'aggraver, ne serait-ce qu'à travers le symbole que représente la désignation de l'ancien ministre de l'Intérieur comme appelé à former le prochain gouvernement tunisien. Et ceci, quelques dizaines de jours après l'assassinat d'un leader de la gauche tunisienne. Or, on sait toujours que quand il y a comme ça des assassinats, normalement, la première personne visée, même s'il n'est pas directement responsable, c'est à juste titre le ministère de l'Intérieur, qui d'ailleurs, au lendemain de cet assassinat, aurait dû démissionner. Peut-être qu'il aurait pu ainsi faciliter la poursuite de l'expérience en cours avec le précédent Premier ministre. Mais il n'en est rien, visiblement. les débats internes à ENADA, qui est donc le parti islamiste au pouvoir. En fait, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un débat interne, puisque visiblement, ils ont une majorité très déterminé à garder le pouvoir, quoi qu'il en coûte.
Alors que si on reste sur les mouvements dans ces différents pays, on peut dire aussi quelques mots de la Syrie. La Syrie où il y a différentes choses qui se sont passées ces jours. D'une part, bon, un photographe français, 38 ans, voisin, est mort au combat, si on peut dire. Du moins, il accompagnait les rebelles et il s'est pris des éclats et il est décédé. Il y a la coalition nationale syrienne qui politiquement se fatigue un peu des réunions internationales diverses et variées pour aboutir à rien du tout. Donc du coup, ils ont déclaré qu'ils arrêteraient de perdre leur temps là-dedans tant qu'on ne leur proposait rien de concret, si ce n'est de les rencontrer. La Turquie, de son côté, s'énerve un peu et Erdogan menace si les exactions continuent. On ne sait pas bien de quoi, mais disons qu'il déclare qu'il ne restera pas sans réagir, quoi. Puis sur le terrain, eh ben, on voit que les opposants s'approchent de plus en plus de Damas, puisque le QG de l'armée a été attaqué au mortier, que plusieurs quartiers de la ville sont maintenant harcelés par les opposants, quoi. Voilà, situation donc qui évolue lentement. Et alors les Européens, on a vu ça dans la presse ces derniers jours, font état de leur réticence à livrer des armes dont ils ne savent pas dans quelles mains elles vont tomber par la suite, et du coup à ne pas vouloir risquer de fournir des armements trop sophistiqués. Donc c'est simplement le ravitaillement en armes est fait par certains pays arabes d'un côté, puis certains autres de l'autre, enfin arabes et Russie et Iran, pour le clan Assad. Donc dans ce contexte, effectivement, l'affrontement peut durer encore un certain temps, quoi.
Il y a cette nouvelle déclaration, c'est pas la première, donc les Occidentaux n'y attachent pas beaucoup d'importance, mais une déclaration du gouvernement et de Bachar el-Assad, selon lequel il est toujours possible d'ouvrir une discussion avec tous ceux qui l'accepteraient. Alors ce sont des déclarations qui, bon, elles sont à la fois, on peut dire que c'est des déclarations ouvertes, mais que de toute façon, elles ne répondent pas à l'exigence actuelle de la coalition, dont on sait qu'à l'intérieur de laquelle c'est la surenchère permanente au niveau de l'exigence, et notamment l'exigence première, c'est on ne veut rien discuter avec Bachar, il doit d'abord partir avant que tout processus puisse être décidé quant à l'avenir de la Syrie. Donc de ce point de vue-là, toutes les déclarations du gouvernement syrien sont vouées à l'échec aussi longtemps que effectivement les Occidentaux s'y tentaient. C'est une évolution qu'on remarque chez eux, parce que ils s'observent que finalement tous les printemps arabes, ça se passe souvent par l'arrivée au pouvoir de forces islamistes plus ou moins modérées, et que donc la Syrie sera vouée au même processus, et que peut-être quand on combat les islamistes radicaux en Afrique, faut-il leur permettre, au nom des droits de l'homme, de prendre le pouvoir à Damas? Et actuellement, les Occidentaux s'interrogent quand même pour la première fois sérieusement.
Voilà, on dit quelques mots du Mali aussi, où des choses se sont passées ces derniers jours avec une guerre qui cette fois porte bien ce nom sur le terrain au niveau de l'infanterie, même s'il y a toujours sans doute un appui de l'aviation, il y a même un appui de l'aviation américaine avec les drones américains qui arrivent en appui dans ces zones montagneuses. Les djihadistes, semble-t-il, s'adaptent et arrivent à se protéger de ces observations du haut. Et ils ont aussi tenté de reprendre le main et même peut-être le pouvoir. On se demande quelle est la stratégie qu'ils développent là, parce que estiment-ils qu'ils ont des chances réelles de reprendre une ville comme Gao en envoyant des combattants l'investir. Le bilan, il semble qu'il est d'une centaine de morts de leur côté, puis de 25 morts du côté des troupes légalistes, quoi. Avec des Français qui se tiennent pas loin et qui, quand ils estiment que la situation devient trop dangereuse, débarquent avec un armement adapté et redressent les choses en faveur de l'armée malienne, quoi. Donc ACMI, le mouvement Moujao aussi, a revendiqué plusieurs de ces attaques qui font que, à l'heure qu'il est, eh bien, des combats se déroulent dans les agglomérations du Nord Mali.
Oui, c'est un peu dans ce contexte de déstabilisation accélérée de toute cette région africaine que se tiennent, ce n'est pas, à l'origine, elle n'était pas convoquée pour parler exclusivement du Mali, mais le Mali n'échappe pas au débat. On a parlé la semaine dernière de cette rencontre de la communauté des États sahélo-sahariens, c'est une vingtaine de pays, donc qui sont plutôt au nord de cette zone et qui sont directement confrontés à cette question du Mali et qui donc tentent de stabiliser la situation et surtout de s'organiser un peu pour que les États puissent retrouver la capacité de maîtriser ces rébellions qui sont à la fois diverses, auxquelles se mêlent d'ailleurs des comportements mafieux et de gangstérisme. Donc, première réunion la semaine dernière, on l'a évoqué assez longuement ici à cette antenne, lundi dernier. Deuxième réunion, cette fin de semaine dernière, cette réunion rassemblait les États d'Afrique et d'Amérique latine. Alors, c'est déjà beaucoup. Ça rapprochait deux continents du sud, de l'hémisphère sud. Ce type de réunion a déjà eu lieu. Cette fois-ci, elle avait pour cadre la capitale de la Guinée équatoriale. Hein. C'est un tout petit état, puisque ça fait que quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés et quelques centaines de milliers d'habitants, dont la capitale est Malabo. On pourrait d'ailleurs demander qui connaît Malabo. Voilà. Alors, étaient présents par contre plusieurs dizaines de chefs d'État ou de représentants de gouvernements africains. Alors là, c'était aussi bien du nord au sud de l'Afrique, et aussi près d'une quinzaine de pays latino-américains, amérindiens, comme on le dit souvent. Et à l'occasion de cette rencontre, eh bien, qui a été notamment présidée d'une certaine manière, naturellement par le pays d'accueil, mais aussi l'importance qui a été donnée aux interventions de Madame Rousseff, hein, c'est la présidente du Brésil. Et qui a fait des déclarations très 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 importantes sur les nécessités d'un développement autonome des continents de l'hémisphère sud, et puis aussi des exigences de ces continents, surtout des plus grands pays comme l'Afrique du Sud, le Brésil, et puis l'Inde, et puis d'autres, qui exigent une réforme profonde de l'ONU. Madame Rousseff dit « Rien ne justifie que l'Afrique et l'Amérique du Sud soient toujours sans représentants au Conseil de sécurité ». On sait que certains pays disent discrètement qu'ils sont pour leur entrée dans ces structures-là, comme par exemple, je crois que c'est le cas de la France maintenant avec Hollande, mais ce sont que des mots. Mais une réforme en profondeur des instances internationales, à commencer par l'ONU, mais pas seulement l'ONU aussi. Par exemple, dans son discours, Madame Rousseff, elle dit qu'il faut aussi revoir complètement le fonctionnement du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale du commerce. D'ailleurs, à ce sujet, le Brésil est demandeur de la direction de l'Organisation mondiale du commerce, dont on sait qu'elle est toujours et depuis des décennies entre les mains des Européens, et actuellement d'ailleurs d'un Français qui doit d'ailleurs terminer prochainement son mandat. Alors peut-être que ce sera un Brésilien dans la prochaine étape de cet organisme. Alors il y a eu des interventions du Bolivien Evo Morales, qui, lui, toujours sur ce thème du Conseil de sécurité de l'ONU, a parlé d'un Conseil d'insécurité. Il a eu des propos très durs. « Nous devons être ensemble, c'est-à-dire les pays du Sud, pour nous libérer de la puissance de l'OTAN, du Conseil de sécurité des Nations Unies. » Donc qu'il traite de conseil d'insécurité. Voilà, alors c'est des déclarations faites dans le cadre de cette rencontre. Il y a eu aussi, et ça a été un temps fort, il y a eu aussi la lecture d'un message, il nous dit la dépêche, avec longuement applaudi, de Hugo Chavez, qui est hospitalisé à Caracas par son cancer, et dont on sait par exemple qu'il n'a pas la possibilité de s'exprimer, puisqu'il a fallu lui pratiquer une trachéotomie. Et donc Chavez a dénoncé les forces impérialistes, et ce sont ses propos. « Ce sont dans nos continents que se trouvent les ressources naturelles, politiques et historiques nécessaires pour sauver la planète du chaos auquel il a été conduit. » Voilà, sauver la planète du chaos auquel a été conduite, ces déclarations très dures de Chavez, et qui a reçu l'assentiment de tous ces pays rassemblés donc dans la capitale de la Guinée équatoriale la fin de la semaine dernière. Alors peu d'écho de ces rencontres des Africains, ou voire des Africains et des Latino-Américains, comme si effectivement les problèmes des Occidentaux, c'est essentiellement comment trouver à faire entrer le monde le monde arabe nouveau à travers ces révoltes dans le capitalisme moderne, et donc trouver les moyens de créer des classes bourgeoises et des classes qui accéderont à la richesse et donc à la finance mondiale. Voilà, il semble que c'est le souci principal des Occidentaux, alors qu'il se passe des choses beaucoup plus importantes ailleurs, mais on ne les voit pas actuellement.
Et il faut quand même dire, à propos de l'Amérique du Sud, un mot de Cuba, où le Raúl Castro vient d'en reprendre pour 5 ans, vient de rempiler. Tiendra-t-il 5 ans? Il semble qu'il n'en est pas sûr lui-même, mais enfin, en tous les cas, il a déclaré que ce serait son dernier mandat, il a 81 ans, hein. Et il devrait donc poursuivre la politique d'ouverture politique, ces privatisations partielles, limitées, autorisées à un maximum de gens. Voilà, il engage donc ce nouveau mandat avec un nouveau premier vice-président qui s'appelle Miguel Díaz-Canel, qui a priori est appelé à prendre la suite le moment venu.
Et qui serait plutôt, j'ai lu, un ingénieur, un technicien, donc ce ne serait pas quelqu'un issu du bras armé de Cuba.
Une page se tourne. On parle d'Europe un petit peu ?
On peut parler d'Europe, voilà.
Allez, oui. Rapidement, les élections à Chypre, sans surprise, c'est un élu de droite, Anastasiades, qui était favori, qui a été élu. Son seul souci maintenant, c'est de trouver auprès de l'Union européenne les milliards nécessaires pour renflouer toutes ces banques, plus ou moins frauduleuses, et qui ont passablement accueilli les mafias russes. Il semble même qu'il sollicite aussi les Russes, en cela qu'ils lui doivent bien cela, pour donc la crise de Chypre, dans la suite, la mouvance et la coordination avec celle de la Grèce, bien sûr. Donc, pas grand-chose à attendre de ce côté-là, sauf qu'il va falloir, là-bas comme ailleurs, alimenter les banquiers véreux de la région. Mais il y a l'Italie, où c'est un peu plus compliqué, et où on n'a pas, à l'heure qu'il est, encore les résultats des élections, mais où il y a déjà des résultats partiels, puis des tendances, tout laisse à penser que ça ne va pas être simple, quoi. Il est vraisemblable qu'au niveau des parlementaires, des députés, la gauche va avoir une majorité. À quelle hauteur relative? Il y a 630 députés à élire. Au niveau du Sénat, ça va être beaucoup plus compliqué parce que les désignations des élus se font par région et avec un avantage, une prime, comme on dit chez nous, à la majorité, une prime au premier arrivé pour qu'il ait une majorité. Donc il peut se passer un peu n'importe quoi en fonction des résultats dans chacune de ces régions. Ce qu'on sait, c'est que Berlusconi, c'est incroyable, mais les Italiens sont incorrigibles. Il s'en tire bien, il arriverait autour des 30% derrière Versani, le socialiste de la coalition de gauche, à 35%. Pepe Grillo, le coluche local, lui ferait même 25%. On l'avait pesé à 20% avant les élections. Et puis Monti est le grand perdant de niveau électoral. Ceci dit, dans le cadre d'une coalition avec Versani, il va peut-être pas perdre tant que ça. Mais à l'heure qu'il est, les élections finissaient à 3h hein, cet après-midi, les bureaux de vote, quoi. À l'heure qu'il est, c'est difficile de savoir ce qui va sortir. On y verra sûrement un peu plus clair demain matin, quoi. Mais il y a peut-être d'autres commentaires à faire. Vas-y.
Avec une, semble-t-il, une abstention plus forte que les précédents votes, qu'on expliquerait facilement dans la mesure où, effectivement, la majorité qui va se dégager et qui peut amener le parti démocrate de Bersani faire une alliance avec Monti pour finalement poursuivre la politique de rigueur avec des promesses pour amadouer les plus pauvres et leur laisser entendre que on leur mettra quand même quelques pansements sur leurs plaies. Et évidemment, ça ne peut pas faire une politique enthousiaste et appeler au vote des gens. On s'attend finalement à la poursuite d'un programme d'austérité pour l'Italie avec un gouvernement de gauche, ce qui naturellement aggraverait un peu la situation. Alors qu'en Espagne, le gouvernement de droite est soumis vraiment à pression tous les jours des milliers, des centaines de milliers d'Espagnols qui protestent dans la rue et qui disent Rajoy, dégage, on ne veut plus de toi, et que la mobilisation espagnole dépasse largement maintenant ce qui était l'embryon, par exemple, des indignados, des indignés. C'est bien au-delà, et l'Espagne est pratiquement au niveau de son entrée en rébellion, au point où est encore toujours la Grèce actuellement, dont on parle peu, mais tous les jours, en Grèce aussi, le mouvement social se développe et tente de contrer les programmes d'austérité qui passent par des délocalisations et puis par des privatisations. Enfin, toutes ces choses, effectivement, qui conduisent à appauvrir un peu plus, puisque ça ne crée pas de valeur, ça ne crée pas de richesse, ça ne crée pas d'emploi, ça ne crée pas de croissance, ça ne crée que de l'endettement supplémentaire.
À propos de l'Italie, j'ai oublié de dire, oui. Moi, j'ai cru d'abord qu'en fait, on élisait un pape au suffrage universel. On m'a expliqué que c'était pas tout à fait ça. Mais il va y avoir des élections bientôt aussi au Vatican. Et alors là où j'ai cru rêver, c'est quand on m'a expliqué aussi qu'en fait, la démission de Benessez, là, était sans doute liée à un chantage sexuel. Ouh là là, au Vatican. Des gens qui vous font la morale tous les jours et qui ont l'air d'être empêtrés dans un scandale dans des scandales de pratiques homosexuelles dans le cadre du Vatican. Restez assis, vous avez bien entendu. Il semble que Benessez, en ayant eu marre de tout ça, a décidé de jeter l'éponge et laisser tous ces pervers entre pervers ou émancipés, hein, ça dépend comment on voit les choses. Non, je dis pervers parce que par rapport à la doctrine qu'il pratique, il baigne vraiment dans la perversion. Enfin, fouillez vos bonnes feuilles pour en trouver plus là-dessus.
Oui. Le tout, oui, c'est de savoir si finalement les séductions des jeunes séminaristes, ça concernait des personnes majeures ou pas, quoi. Parce qu'après tout, bon, que des séminaristes, des jeunes curés majeurs se laissent séduire par les cardinaux, après tout, on n'y peut rien, je veux dire. La loi ne peut pas intervenir dans cette affaire-là. Mais en fait, c'est sûrement beaucoup plus grave. Et il y a surtout aussi, qui déstabilise un peu plus la situation, c'est que, par exemple, il y a plus de 10 000 pétitionnaires aux États-Unis qui demandent qu'un cardinal, je crois que c'est celui qui règne sur Los Angeles, ne participe pas au conclave parce qu'il est compromis dans de graves affaires, effectivement, de pédérastie. Et puis, même chose en ce qui concerne un cardinal écossais qui baigne dans ce type de rumeurs avérées et dont les chrétiens catholiques demandent qu'il soit exclu de toute participation au vote lors du conclave.
Oui, on va se désintoxiquer la tête. Là. Une pause musicale avec un document qu'on doit à France Culture. Merci à lui. La Dame de Damas, c'est un morceau dit sur un fond musical, accompagnement de Hassan Zakaria, un texte de Jean-Pierre Fitzhugh, interprété par F. Desca.
Je suis né sous le Père, j'ai grandi sous le Fils, j'ai dû chanter leur gloire, j'ai enduré leurs vices. Jamais de jamais je n'aurais cru voir leur fin, jamais de jamais je n'aurais cru vivre enfin. Ce fut une longue nuit, longue de 40 ans, ce fut l'ère du mensonge, le règne des brigands. J'ai perdu mes amis, j'ai langui mes parents, j'ai ruminé ma peine, j'ai enterré l'instant. La Dame de Damas s'est levée ce matin, liberté dans les cœurs, aube à portée de main. Ce ne sont pas de lions, ce ne sont que des chiens, aboyeurs, enragés, ivres de leur venin. La Syrie leur est due et nous sommes leurs serfs, un pays au Assad et pour nous, la misère. Nous n'étions que de sang quand le mur est tombé. Le mur de cette peur longtemps accumulée, un cri de nos poitrines, un écho à vibrer. Nous ne voulons que Dieu, Syrie et liberté. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, aube à portée de main. C'était au mois de mars, 2011 est l'année, nous n'étions que de sang. Sur nous, ils ont tiré cette armée sur armée, ne sait quelle pitié d'un vendredi à l'autre, nous devint des milliers. Ils portaient un couffin vers la ville assiégée, les marches étaient de paix, un rameau d'olivier, ils n'avaient que 13 ans, ils l'ont défiguré. Hamza est son prénom, de toute éternité. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, aube à portée de main. C'est une guerre civile, martelait le tyran. De sa voix au perché, de bourreaux négligents. Le concert des nations endossa le postiche, remplissait les charniers. On ne prête qu'aux riches. Les mots pâlissent face à ce fracas d'horreur. Carnage et maisonnée importés avant l'heure. Gare dénonciateur, frémit chaque Syrien. Les fantômes torturent au nom d'Assad ou rien. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans le cœur, aube à portée de main. Abandonnée du monde, nos larmes étaient de sang. Toujours porter le deuil, râle jeté au vent. Pourtant oui, tenir bon, résister, résister. Peu à peu progresser et les taux de serrer. Mais tout a une fin. Même la barbarie. Nous en tremblons le jour, nous en rêvons la nuit. Dans leur haine sans fond, ils veulent nous plonger. Nous serons plus forts qu'eux, nous saurons pardonner. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, aube à portée de main. Cette dame, je la chante, c'est la révolution. Sur les murs de Syrie, j'écris partout son nom.
L'accompagnement était un vous de vous écouter bien Radio Canus, 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 25 février 2013. Et nous abordons la rubrique nationale avec un petit tour d'horizon sur la vie politique, Robert.
Oui, évoquer un peu le front de gauche, hein, qu'on peut appeler l'opposition de gauche au gouvernement Hérault Hollande. Et à l'intérieur de ce front de gauche, le mois dernier, enfin même pas, ça remonte à deux semaines, il y avait le congrès du Parti communiste qui donc a réaffirmé à la fois son opposition à un certain nombre d'orientations du gouvernement, tout en laissant entendre que faudra bien l'année prochaine, faudra bien voir comment on va s'y prendre avec les socialistes pour les élections municipales. Parenthèse, il a été décidé que les élections régionales et seront reportées à 2015. Donc il n'y aura pas le couplage, dans la même année, des municipales, des régionales et des cantonales. Les cantonales aussi seront portées. D'ailleurs, tout va changer sur les cantonales, puisqu'on va réduire, les socialistes également ont leur petite idée sur cette question qui interpelle pas mal de gauche à droite, le petit monde des notables locaux. Alors donc, Parti communiste, il y a une ou deux semaines, et cette fin de semaine, c'était le parti de gauche qui préparait son congrès qui va se tenir le mois prochain. Bon, on va dire on aura le temps d'évoquer cette préparation dans les semaines qui viennent. Ce qui était important, c'est que déjà un peu à la même méthode de préparation que les communistes, c'est-à-dire que plusieurs textes circulent, dont un qui émane de la direction sortante du parti de gauche, des textes d'orientation généraux. Il y a un grand texte d'ailleurs qu'ils ont appelé Osons. On a reconnu un peu tout ce qui a été écrit pendant la période de la campagne présidentielle à travers les différents programmes, y compris le programme du parti de gauche. À partir de ces textes-là, eh bien, les comités locaux vont débattre s'emparer, si l'on peut dire, de 2000 amendements, ce qui est énorme, mais ça fait partie du jeu électoral normal dans la préparation des congrès d'aujourd'hui. Souvent des amendements qui se répètent, donc qui vont être pour certains beaucoup très vite éliminés. Alors l'axe principal du parti de gauche, c'est bon d'abord son ancrage dans le front de gauche, sa définition de l'écosocialisme, qui est la charpente, on va dire, idéologico-stratégique, c'est-à-dire cette volonté de ne pas concevoir une stratégie alternative de transformation de la société qui ne prenne pas en charge la réalité entière et à part égale de l'écologie. Donc là-dessus, ça fait pas, semble-t-il, il n'y a pas de grand débat entre eux. Le parti de gauche, il revendique 12 000 adhérents. Bon, c'est un parti, ça fait pas un parti énorme, mais 12 000 adhérents, dès qu'on dépasse 10 000, ça commence à devenir intéressant en France, parce que c'est très difficile de faire grandir un parti nouveau. Alors c'est à la fois un parti nouveau, ça va être son troisième congrès, mais dirigé quand même par des gens qui sont des classiques de la politique, que ce soit Martine Billard qui est coprésidente, qui vient de chez Les Verts, ou là, une longue carrière avec Les Verts, ou que ce soit Jean-Luc Mélenchon, qui lui a une longue carrière avec les socialistes. Voilà, donc c'est cette préparation du parti de gauche, et qui naturellement va profiter de la conjoncture sociale, comme l'ensemble du front de gauche et au-delà. Il y a un appel syndical de la CGT, de Force Ouvrière, de Sud, de la FSU, l'UNSA, je ne me souviens plus, pour faire du 5 mars un temps fort de mobilisation avec grève dans certains cas. Par exemple, je sais qu'il y a un appel à la grève à Marseille. Grève dans certains cas, le 5 mars, pour dénoncer l'accord qui a été signé entre le MEDEF et puis la CFDT, la CFTC et la CGC, qui ne représentent à peu près 38% seulement de la participation ouvrière dans les différents votes dans les établissements, les entreprises et au-delà, donc minoritaire, majoritaire, puisqu'ils étaient trois et que dans les négociations, à la part de la négociation, ne participaient que les cinq, CGT, CGTFO, CFDT, CGC et CFTC. Les autres syndicats, pour l'instant, n'ont pas le droit de participer aux discussions. Donc, sur les cinq, comme il y en avait trois qui étaient signataires, donc ça a été signé. C'est les nouvelles règles du jeu qui ne tiennent pas compte si c'est représentatif ou pas d'une majorité de syndiqués. Donc, ce qui est déjà est un premier accroc à la démocratie. Voilà, donc mobilisation pour dénoncer non seulement le contenu de l'accord, mais aussi pour dénoncer le fait que le gouvernement est en train de préparer et va très prochainement présenter, d'ailleurs peut-être dès la semaine prochaine, au Conseil des ministres, un projet de loi pour, en quelque sorte, légaliser, légitimer, c'est-à-dire appuyer cet accord MEDEF-syndicat dans son contenu en en faisant une loi. Et ça, c'est effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus grave, parce que dès lors que c'est inscrit dans la loi, ça devient encore plus compliqué de le combattre, d'une part, et du coup, ça donne à Hollande et à Ayrault une accentuation de sa politique austéritaire, puisqu'il est bien clair que dans cet accord, finalement, les concessions les plus fortes ont été faites par les syndicats sur la possibilité maintenant de la souplesse donnée aux entreprises, aux patrons, par rapport à la main-d'œuvre, en fonction des cahiers de commandes, en fonction d'un certain nombre de critères. C'est-à-dire que ce qui était demandé, la sécurisation du travail, eh bien, en fait, c'est devenu l'insécurisation du travail dans ce texte. Et les contreparties apportées sur les plans de formation, les plans divers, mais ce sont des termes tellement vagues que ça n'apporte pas une réponse sérieuse à la situation de crise et de chômage qui va s'aggraver avec, en plus, tout pouvoir donné en quelque sorte au patronat.
Voilà quelques informations sociétales, on va dire. Mon attention a été retenue par cette décision du Conseil constitutionnel qui doit être rendue le 22 courant, c'est-à-dire vendredi, sur la question de la laïcité, une QPC, hein, les fameuses questions prioritaires de constitutionnalité, au sujet, rien de moins que de la laïcité en Alsace-Lorraine. C'est-à-dire qu'il y a une association qui s'appelle l'Appel, comme le mot appel, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité, qui a saisi le Conseil constitutionnel sur la question d'arrêter la rémunération des ministres des cultes en Alsace-Lorraine au titre d'un système égalitaire en France et ailleurs. On rappelle une énième fois que c'est un concordat de 1802 et que cette situation perdure parce que quand la France a récupéré en 1918 l'Alsace-Lorraine, évidemment la loi de 1905 avait été votée entre-temps ailleurs, et on ne l'a pas étendu ipso facto, ça a dû faire partie des accords et négociations, à l'Alsace-Lorraine. Résultat, aujourd'hui encore, c'est 58 millions de francs, d'euros qui sont versés par an pour 1393 agents du culte qu'on rémunère, retraités compris, et 2 millions pour l'entretien des bâtiments. Alors d'une manière assez curieuse, ça ne concerne que quatre cultes et les musulmans ne sont pas dedans. Néanmoins, ils n'ont pas tout perdu quand même, parce que comme il y a un certain nombre de subventions faites par les collectivités locales, ils en sont bénéficiaires. En gros, les régions, les communes, les départements participent à la construction des mosquées. Il serait peut-être que cet arrêt du Conseil constitutionnel va mettre un terme, on a le droit de rêver, hein, à cette ineptie dans la laïcité française que constitue le régime d'Alsace-Lorraine. Ça, c'est une chose. Il y a une autre ineptie sur laquelle on voulait attirer votre attention. On a su que le Qatar, on se demande, mais pourquoi les Qataris investissent tant en France ? Eh bien, il faut savoir que ça, c'est encore un des méfaits de Sarkozy et de ses potes. En 2008, donc, il a été accordé un statut fiscal spécifique au Qatar, depuis 5 ans maintenant, qui fait que les investissements de fonds publics qataris en France bénéficient d'une exonération sur les plus-values immobilières et d'une non-imposition sur les dividendes. Ah, pensez si c'est intéressant. Et quand on a une boîte privée au Qatar, ben qu'est-ce qu'on fait? On passe en cheval de Troie avec un fonds public qatari quelconque et on vient comme ça s'implanter en France avec des conditions fiscales qui ne sont pas du tout celles des autres entreprises françaises ou autres. Alors quand le Premier ministre déclare qu'il y a 6 milliards à trouver pour équilibrer les comptes et qu'il pense les trouver chez les retraités ou chez les smicards ou ailleurs, on peut lui donner quelques idées de pistes beaucoup plus intéressantes dans les niches fiscales, celles-là en sont. Il est peut-être temps, il y a même des députés UMP qui se posent la question, il est peut-être temps de revenir sur ces curieuses décisions de Sarkozy concernant un pays étranger au milieu des autres. Voilà, qu'est-ce qu'on voulait dire aussi? Ben, la réforme pénale, Taubira a reçu le rapport sur son bureau de la commission et Delarue, quant à lui, développe le contenu de son rapport 2012 avec, on se souvient de l'affaire des Baumettes en particulier, où depuis le mois d'octobre, et ses dénonciations d'anomalies, rien n'a été fait. Robert, avais-tu d'autres sujets?
À propos des prisons, deux suicides en prison, je crois, en cette fin de semaine dernière. Deux suicides par pendaison. Et c'est effectivement la confirmation de la situation très, très, très difficile pour les détenus. J'avais noté... Ce sondage, alors il est assez... Bon, on ne sait pas ce que ça vaut, le sondage de l'IFOP concernant la mairie de Marseille l'année prochaine. Alors voilà, d'après ce sondage, il y a quatre possibilités socialistes. Et les quatre à peu près se tiennent, selon c'est lundi 4, mais se tiennent dans la même fourchette. On a Patrick Minussi, 24%, ça c'est au premier tour. Eugène Casselli, 24%, Marie-Arlette Carlotti, ministre un petit peu plus, 27%, et puis une maire d'un des arrondissements, je ne sais plus lequel, Samia Ghali, 25%. Bon, ils sont tous très près l'un de l'autre. Mais ce qui est le plus étonnant de ce sondage, c'est que celui qui serait le vainqueur de ces quatre au sein de la gauche socialiste, eh bien, serait à même de battre facilement Jean-Claude Gaudin. Qui s'il se représentait, pour l'instant il n'a pas pris position, mais tout le monde pense qu'il va se représenter.
Serait-il à même de battre Tapie?
Oui, alors Tapie dans ce sondage de l'IFOP n'est qu'à 13%, alors que dans d'autres sondages peut-être moins élaborés, ça ne veut pas dire qu'il est forcément plus mauvais, parce qu'on sait ce que valent les sondages, disait que 40% des Marseillais étaient éventuellement prêts à voter pour Tapie. Alors c'était effectivement, ça avait fait la semaine dernière, ça fait une grosse émotion sur la Canebière. Mais là dans le sondage, il n'y parlait plus qu'à 13%, et puis le Front de Gauche 10%, et les écologistes 7%. Voilà, mais dans tous les cas de figure, de toute façon, on annonce la droite battue à Marseille. Mais bon, c'est peut-être justement pour ce sondage est fait exprès pour qu'elle se réveille et puis dire nous ne voulons pas être perdre Marseille.
Berlusconi en Italie, tapis à Marseille, on est bien gouverné. Hein. Un mot de la Réunion où il y a des manifestations qui perdurent sur le thème de l'obtention de contrats aidés. Donc on envoie Nadjet pour régler le problème, je ne sais pas si elle va y arriver. Depuis des semaines, il y a des barrages qui sont faits par les Réunionnais. Il faut dire qu'il y a un chômage à 30%, une activité économique extrêmement réduite, que c'est 60 à 80% des jeunes qui sont au chômage, et on comprend que ça énerve beaucoup les gens et que les fameux contrats aidés que le gouvernement a annoncés soient pour eux des bouées de secours sur lesquelles ils comptent beaucoup.
Et qu'est-ce qui a été envoyé, tu sais, la jet, Valo-Belkacem,
notre élue lyonnaise.
Oui, ben oui, c'est
parole du Premier ministre.
Mais qui, dans la fonction, c'est, elle est porte-parole du gouvernement et elle est ministre, je crois, le titre de ministre.
J'ai plus le nom en tête, mais enfin, c'est la condition de la femme, comme on
l'a dit. La condition de la femme. Oui, voilà.
Mais ça ne doit plus être le nom actuel.
Ou de la, ça, ou de la jeunesse aussi, non elle a, quelque chose qui peut-être, oui. Voilà.
Voilà, un mot de, des engagements sur la loi sur le non-cumul des mandats, hein, puisque c'est un serpent de mer qui a déjà été présenté trois fois en 1985, en 2000, et qui ne sort jamais. Et là, il est question de le représenter, mais ça ne devrait pas non plus sortir tout de suite. L'argument, qui n'est pas complètement idiot, des opposants, étant de dire, puisque ces gens ont été élus dans les conditions où ils l'ont été, on ne peut pas, en cours du match, changer les règles du jeu et remettre en cause le vote de leurs électeurs pour des désistements sur des postes où ils seraient en cumul, quoi. Ceci dit, moi je resterai toujours très perplexe devant des... C'est à croire que chacun des postes qu'ils occupent ne sont que des emplois à temps partiel, puisqu'on peut se permettre d'être maire, député, sénateur, président de région. Un des plus gros cumulards, c'est le nôtre, hein, c'est notre maire de Lyon. Comme si tous ces emplois, à eux tout seuls, ne justifiaient pas une activité à temps plein. Alors après, ils vous expliquent qu'avec les petits revenus qu'on leur donne, il faut en cumuler plusieurs. Puis après, ils vous explique encore que, mais non, puisqu'il y a un plafonnement aux revenus et que c'est pas pour ça qu'ils le font. Enfin bon, un débat qui va durer et en tous les cas, dont on aura l'occasion de reparler. Voilà, on arrive bientôt à la fin du journal. Tu as peut-être encore un truc, Robert ?
Oui, en une phrase, parce que c'est, on y reviendra d'ici là. Simplement déjà annoncer que le samedi 9 mars, on n'est plus très loin, ça va être là, le mois de février est en cours, 9 mars à Paris, chaîne humaine pour l'arrêt du nucléaire civil et militaire. Donc 9 mars, 13h30, transition énergétique maintenant et pas attendre qu'un Fukushima ou qu'un Tchernobyl nous tombe sur le coin de la figure pour amorcer la transition énergétique. Chaîne humaine, le 9 mars, grand rassemblement à Paris.
Oui, ça va être d'autant plus vite là que normalement le CANUFO du lundi ne sera pas là la semaine prochaine, donc on va tout de suite arriver dans les eaux qui précèdent le 9 mars. Néanmoins, celui-là sera rediffusé demain matin à 8h, vous pourrez le réentendre dès ce soir un peu plus tard sur le site internet, le blog des émissions de Radio CANU. Et puis si vous êtes avide d'informations sociales et économiques, ne quittez pas l'antenne. La prochaine émission évoquera le sort des ouvriers de Bital, rapporté à celui de ceux de Longwy en 1978, 1980. Bonsoir.